le matin.
Marceau, what do you want to be?
Marceau le matin.
All right, c'est 1 degré sur Québec en ce jeudi. Avertissement de pluie pour ce qui est des prochaines heures et demain. Aujourd'hui, c'est ensoleillé. Probablement de la pluie cet après-midi. C'est ce qu'on nous mentionne du côté d'Environnement Canada. Maximum de 9 degrés. Ce soir, cette nuit, c'est nuageux. 40% de probabilité d'averse avec ensuite de la pluie qui devrait débuter vers minuit entre 10 et 15 mm annoncés, minimum de 7 degrés. Demain, ça va se gâter pour la journée de l'Halloween, de la pluie parfois forte, hauteur prévue de 30 mm, c'est ce qu'on nous mentionne, des rafales à 60 km/h qui devraient devenir légers en après-midi, maximum de 9 degrés. Pluie intermittente pour ce qui est de vendredi soir, minimum de plus 4 degrés. Pour ce qui est du week-end, ça s'annonce pas si pire, nuageux avec un maximum de 6 pour samedi. Et dimanche, on parle d'une alternance de soleil et nuages avec un maximum de plus 5 degrés.
L'accès aux pompiers à la porte, c'est déjà assez tough, particulièrement quand tu arrives par 20 ouest ou la 73. 20 est, ça se rend encore assez bien. Pont de Québec aussi, direction nord, c'est jamais.
Arrestation de Mathieu Pelletier. C'est un gars que vous avez certainement entendu parler dans les dernières années. C'est le fils d'un Hells Angels. Et là, on l'a arrêté dans le dossier de meurtre de Jennifer Morin qui aurait été tuée, mais c'était pas elle qui était visée lorsqu'elle a été tuée. C'était plutôt son fils. Mathieu Pelletier, c'est le fils de Marc-Tom Pelletier. C'est un des membres fondateurs du chapitre de Québec des Hells Angels qui a été arrêté en après-midi à l'aéroport de Pearson à Toronto. Je ne sais pas s'il est arrivé à Québec, là, mais j'imagine que ça se frotte dans les prochaines heures. On en parle avec l'ex-enquêteur du service de police de la Ville de Québec, Roger Ferland, qui était avec nous. Merci, Roger, d'être là ce matin.
Bonjour, monsieur. Ça me fait plaisir, les gars.
C'est un gros coup, ça, de la police, d'avoir arrêté cet individu-là. Puis en même temps, ben c'est un gros coup dans les jarnacs des Hells Angels à Québec. Il était déjà pas fort. Il était pas mort, mais il était pas fort.
C'est vraiment un très, très gros coup. Puis, ce qui me dit aussi que c'est une très belle enquête, regardez ça dans l'histoire, ça n'arrive pas souvent qu'on est capable de penser, en tout cas du moins de remonter jusqu'à celui qui est le membre autorisateur d'un meurtre quand on part de la rue. On l'a fait souvent dans l'histoire, mais il y a toujours un délateur qui rentre en ligne de compte. Le tueur à gage galant qui est apparu, Dale Fredette, Sylvain Boulanger, regardez encore présentement, il prépare le dossier de Frédéric Silva à Montréal. Il va donner beaucoup de meurtres, mais c'est parce que tu as un délateur que tu es capable de confirmer les meurtres. Là, dans les circonstances, il y a un mandat d'arrestation. Le procureur de la Couronne s'est penché sur la question, a regardé puis a dit « Si vous me présentez la preuve qu'il y a là, suite aux perquisitions antérieures, suite au travail que vous avez d'observer, je vais être prêt à autoriser que le membre en règle qui est là est celui qui est responsable d'avoir commandé le meurtre. Du moins, c'est la partie que j'arrive à comprendre de l'extérieur. Je trouve ça excellent comme travail. »
Le modus operandi des gangs de rue à Montréal, c'est de faire descendre des jeunes à Québec pour faire le sale boulot. Est-ce que c'est la même chose maintenant pour les Hells Angels? Est-ce qu'ils vont aller chercher des membres de gangs de rue, que ce soit au centre-ville de Québec ou que ce soit de Montréal, pour faire la sale besogne? Ou ils ont un autre modus operandi, c'est qu'ils prennent des hang-around, qu'ils veulent grimper dans l'organisation un jour, entrer chez les Hells Angels pour faire la besogne?
Là, en ce moment, Yannick, ils sont obligés de se retourner beaucoup, beaucoup plus en ce moment vers des ce que tu appelles des hang-around ou sur des clubs qui sont des supporters avec eux. Ils vont demander beaucoup, beaucoup aux gars des Red Devils en ce moment, par exemple, de la région de Québec, de s'impliquer. Mais ce qui est particulier avec Mathieu, c'est que Mathieu, regarde son âge, il a 33 ans. Mathieu a vécu, est né avec les deux locales des Hells qui ont été construits et démolis. Son père était un membre, tu l'as bien dit, influent, un membre, il avait un rôle d'officier, son père, Marc, dans l'organisation Hells Angels Québec City, avait été un des fondateurs, effectivement, puis il est encore membre. Alors, Mathieu a vécu là-dedans toute sa vie, mais Mathieu, par son âge, avait réussi à assouvir en dessous de lui toutes les jeunes après de la région de Québec. Les jeunes équipes travaillaient et payaient une cote pour lui. C'était le cas du Pic Turmel. C'était le cas de plein d'autres petits gars qui étaient des membres de gangs de toutes sortes. Et il y avait des gars qui arrivaient de Montréal, tu as 100% raison, qui travaillaient. Mais le Pic, lui, avait des bons amis dans la région de Montréal. Alors, c'est pour ça que quand la grosse tension a starté il y a à peu près 2 ans, beaucoup de nouveaux joueurs de Montréal descendaient à la demande de certains gars de Québec qu'on ne comprenait pas qui, mais on comprend beaucoup mieux maintenant. Le Pic a dit « Je ne travaille plus pour toi ». Il y a eu des vols entre eux qui se sont faits. Il y a eu dans le milieu un non-respect de certaines règles qu'ils auraient dû faire entre eux. Là. Ils sont allés se voler entre eux mutuellement. et l'intimidation a starté, mais c'est eux qui ont orchestré la tension qu'on a eue partout, les feux d'un commerce, qui ont eu des balles tirées dans les barbershops, les garages, les tortures après ça que les BFM ont faites, c'était en riposte aux actions de Mathieu. Techniquement, ça a brassé terriblement, puis il est en plein cœur de tout ça, ce gars-là.
Est-ce que la violence pourrait revenir dans nos rues? Puis je t'explique ma question. On en avait jasé, toi et moi, il y a de ça quelques semaines ou quelques mois. À Montréal, la façon de faire anciennement, c'était que la mafia mettait tout le monde à la table puis séparait les jobs. Il y avait les Hells qui s'occupaient de certains jobs, il y avait les gangs de rue qui s'occupaient de certains jobs, puis il y avait la mafia qui avait leur propre job. Mais c'était comme le père du crime organisé. Puis là, dans les dernières années, avec la mafia qui a peut-être perdu son importance à Montréal en raison des multiples meurtres qui ont été commis à l'égard des membres mafieux qui étaient quand même assez influents, ça a été déstabilisé. Avec le BFM, à Québec aussi, bon, on s'est rendu compte que les Hells Angels commençaient à avoir peur parce que des Hells Angels qui sont très vieillissants, on en a à 60 ans, puis on en a à 70, puis les hang-around ou les supporters, commençait à dire, ben là, moi, on commence à menacer ma famille. Je les connais pas, ces gars-là. C'est des gars de Montréal. Ils me suivent sur la route. Ils me parlent de la garderie de mes enfants. Ils ont eu de la difficulté à recruter dans les derniers mois, les Hells. On va-tu assister, justement, à une remontée de la violence comme on a connu il y a de ça quelques mois?
Est-ce qu'il peut y avoir une remontée? Je suis pas sûr que ça va créer l'accalmie totale. Temporairement, c'est sûr que ça crée un vide parce que là, tu te rends compte que tu es capable d'aller chercher les têtes. C'est sûr que ça va en calmer une coupe en disant, Caroline, comment est-ce qu'ils ont fait pour remonter jusqu'à Mathieu en ce moment? Par contre, le phénomène de gang qui est apparu, il s'est beaucoup en ce moment, il y a une grosse partie, sans qu'on veuille personne le dire, l'arrivée de plein de nouvelles communautés, les associations des gens, des communautés entre eux. Les gens ont dit, j'arrête moi de travailler pour des équipes ou est-ce que je pourrais jamais grimper en haut. On sent en ce moment un désir de remettre une certaine alliance au sommet de ça. Regardez la personne arabe qui s'est fait tuer dans attaquée, qui s'est fait tuer à Donnacona, défigurée. Ben, il s'est fait défigurer dans la wing précise par des gens de son organisation. Alors, tu vois qu'il y a comme des demandes ou des commandes de messages de dire toi, on te respecte, toi, on te respecte pas. Si vous voulez qu'on vous respecte, faites tel job. Alors, il y a un certain ordre qui essaye de se remettre en place. Mais un ordre dans le crime, c'est pas eux qui vont le plus régulariser. Tu sais, je vous dirais que la Côte-Nord est en train de remettre l'ordre. Bien, c'est parce que Alexandre Maltais a remis de la violence solide là-bas, a fait des crimes gratuits dans la rue à battre du monde quasiment de jour. Et personne ne porte plainte, les gens ont toute peur de lui. Il ramène la vieille autorité qu'il y avait là-bas. Bien, c'est pareil un peu. Fait que on est dans une situation en ce moment où ce que beaucoup de gangs ont envie de prendre leur place, puis n'ont pas nécessairement toute l'équipe pour le faire. Mais si la violence continue et se maintient, c'est sûr que la société ne pourra pas tolérer ça. Alors, ils vont demander aux policiers de s'attaquer, puis là, ben, tout le monde va écoper. Et même ceux qui font du crime un peu plus propre. C'est pour ça que souvent, on a vu les Italiens ou des équipes plus fortes être capables de faire ça, mais ils n'arrivaient pas ces dernières années à avoir ce respect-là de toutes ces gangs-là en dessous d'eux. Oui, les motards les respectaient, oui, peut-être que les Irlandais ou certains groupes les le faisaient. Je l'ai dit par race ou par religion, mais il s'est fait beaucoup, beaucoup de cloisonnement en ce moment entre les communautés, puis contre, en fait, ce qui se faisait sur le terrain, le crime très traditionnel, parce que, rappelons-nous, oui, les Hells Angels, s'ils dominent, c'est interdit d'être autre que blanc pour devenir un Hells. C'est dans leur charte. Fait que tous les jeunes qui sont de haute nationalité n'ont pas aucune espoir final de devenir vraiment un membre des Hells Angels.
Roger, est-ce que le SPVQ est parmi le corps policier le plus performant à l'heure actuelle dans la province? Parce que je vois une déstabilisation du Blood Family Mafia avec l'arrestation de Pic Turmel. Là, cette grosse arrestation au niveau des Hells Angels avec Mathieu Pelletier, je me dis, le travail se fait vraiment bien à Québec.
Je suis obligé de te dire que oui. Est-ce qu'ils sont exceptionnels? En tout cas, le travail terrain de renseignement criminel qui est fait, le travail avec les partenaires que les policiers de Québec font, incluant partenaires, je parle de Lévis, je parle de la Sûreté du Québec, Je parle des partenaires, des ressources aussi communautaires qu'il y a dans la région. Sincèrement, Québec, ça fait des années qu'il essaie d'être en équilibre là-dedans. Puis c'est pas parce que je viens de là, mais c'est parce que je le sais d'y avoir collaboré. J'entends des actions qui se font en ce moment, même dans les écoles, de la prévention extrêmement puissante qu'ils font, dans le sens qu'ils essaient maintenant d'être policiers interventionnistes tout de suite. On n'attend pas d'être juste un préventionniste, mais ton préventionniste doit être capable d'intervenir parce que ça ne fonctionnera pas. La façon de faire, l'informatique qu'ils ont en ce moment, la façon de faire du renseignement criminel rend ça efficace. Je suis obligé de te dire que oui, Québec a été drôlement efficace, servir et de bord. Les paroles qu'a dit le chef de police, si vous voulez faire vos crimes, allez les faire ailleurs, là, parce que on va être sur votre dos. Ben, je pense que les babines ont suivi les bottines dans ce cas-là. Par contre, il y a des coups. Ça ne veut pas dire que les gars, les filles ne sont pas fatigués un peu de travailler à ce rythme-là. Je pense qu'il faut que tu rajoutes des fois du personnel parce que tu as sûrement déshabillé des unités de travail pour arriver là. Ça, c'est de l'organisation, travail syndical, tout ça, je touche pas à ça. Mais oui, je suis obligé de te dire, il y a assurément de quoi qui se fait, puis pas trop chauvin, les gars de Québec, parce que j'ai besoin, j'ai une ressource, on va le demander, puis on travaille en équipe. Ils ont drôlement été efficaces ces 2 dernières années avec la nouvelle criminalité qui a apparu ici.
Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. À la Ville de Québec, là, il y a un mot d'ordre, c'est que le profilage racial, ça reflète en rien les valeurs de l'organisation. Et encore une fois, ce matin, par l'entremise du Journal de Québec, on peut lire que le SPVQ est pointé du doigt dans un rapport de recherche de la section Québec de la Ligue des droits et libertés qui démontre des comportements et des gestes discriminatoires de la part de certains agents à l'endroit de personnes racisées. L'auteur, c'est Maxime Fortin, qui est politologue. Il mentionne que le problème est que la Ville de Québec ne reconnaît pas l'existence du profilage racial et qu'elle refuse de fournir des données quantitatives. Il mentionne qu'on est devant un problème, selon lui, dont il n'y a pas d'admission. Il dit aussi que le rapport, bon, ça repose sur 20 entretiens qui ont été réalisés entre 2022 et 2023 qui visaient à mettre en lumière les expériences de profilage racial vécues lors d'interpellations ou d'interceptions policières. Les personnes rencontrées étaient âgées entre 18 et 51 ans, et dans son rapport, il ressort que le profilage racial semble particulièrement présent dans les secteurs de Saint-Roch et de Sainte-Foy. Les motifs d'interpellation ou d'interception sont plus souvent liés au code de la sécurité routière ou au non-respect des règlements municipaux, même si 2 personnes de cet échantillonnage ont été appréhendées pour des infractions de nature criminelle. Au SPVQ, Roger, tu as eu quand même une super de belle carrière, là. Est-ce que tu sentais que les policiers de la Ville de Québec avaient un biais envers les Noirs à Québec?
Il y a eu des périodes où peut-être que ça peut être un petit peu différent et difficile par méconnaissance, mais je te dirais que ces dernières années, j'embarque pas là-dedans, pas une minute, moi. Ces dernières années, on est dans un contexte où est-ce que dès qu'il y a une interception policière, souvent, c'est plutôt les policiers qui se font servir à l'inverse. Pourquoi tu m'arrêtes? Parce que je suis noir. Je veux plus l'entendre, ça. Là, on est dans un contexte, puis les policiers se le font servir très souvent. Non, monsieur, je vous arrête parce que votre véhicule a telle affaire parce qu'il y a une infraction, parce qu'il y a quelque chose au code de la route. Et les policiers l'expliquent et le documentent très bien. C'est sûr que si tu te mets à regarder ça sous l'autre angle, juste les gens de la communauté, ils vont peut-être avoir envie de penser ce volet-là. Mais moi, je peux te dire que d'être impliqué en milieu scolaire encore en ce moment, que de voir des gens, de voir les policiers travailler, j'embarque pas là-dedans du tout. Il se fait par contre, en ce moment, soyons conscients, du profilage criminel. Ça, je suis d'accord. Et c'est sûr que les policiers vont aller vérifier les individus qui adoptent des comportements ou des attitudes qui sont répréhensibles et qui donnent des motifs raisonnables de soupçonner une infraction. Tu vas aller les voir. Si tu arrives ces lieux et que c'est des gens, normalement, dans certains quartiers à connotation plus, je veux dire, immigrante, ben c'est sûr que tu risques d'intercepter dans ce quartier-là des gens de cette
En
communauté-là.
raison des statistiques, effectivement.
Là, c'est une statistique. Alors, tu peux me dire, ils t'interceptent à cause de ça. Moi, je te dis, j'embarque pas là-dedans, pas une minute. Puis d'ailleurs, Québec est en train de faire d'énormes moves pour rendre ça plus attractif. C'est commencé déjà. On a des gens en ce moment à la Ville de Québec qui viennent de plein d'autres comme communautés. On avait des gens autochtones, mais on avait des gens qui venaient du Mexique, de d'autres pays, il y en avait plein. Puis là, on a des gens, des communautés aussi. Africaine, haïtienne avec nous, puis c'est excellent. Et ces gens-là s'en rendent bien compte et le disent. Mais je pense qu'eux vont peut-être aider beaucoup plus à rendre ça normal, parce que même si c'est nous qui l'expliquons, Ils pensent toujours qu'il y a un petit biais et il est facile pour eux de le penser. Mais à mes yeux, en ce moment, les principes du vivre ensemble que la Ville de Québec a voulu placer, ben, je ne pense pas qu'ils parlent des deux bords de la bouche. Et à chaque fois qu'il y a un incident qui est rapporté, la ville, le SPVQ l'enquête. Moi, ça m'est arrivé, moi, de rapporter des incidents, puis les confrères, des affaires internes ou de d'autres milieux, des officiers m'ont dit, Roger, on est allé au fond des choses, voici l'histoire. C'est pas du tout ce qu'on t'avait raconté, parce que souvent, j'ai entendu des plaintes qui venaient jusqu'à moi. Fait que c'est pour ça que je te dirais, là, en ce moment, il faudrait qu'on arrête d'avoir la peau sensible et la peau fragile, là. On est dans un contexte où est-ce qu'il y a des criminels? Bien, je pense que les criminels doivent être dénoncés aussi dans leur communauté, par la communauté.
Puis si tu avais une question, Roger Ferland, à poser au politicologue Maxime Fortin, quand il dit que le problème est que la Ville de Québec ne reconnaît pas l'existence du profilage racial, ce serait quoi ta question à poser à Maxime Fortin?
Bien, moi, je dirais, le sens des responsabilités, là, il voit où de l'autre côté, lui, à ce moment-là? Moi, j'aimerais ça voir ce que j'ai vu en ce moment dans la région de Montréal qui commence à se faire, des papas et des mamans qui sortent dans la rue et qui sont prêts au nom de se faire bâcher un peu par la communauté, de dire « c'est à moi de savoir ce qui se passe dans ma maison, c'est à moi de demander l'aide à la police quand il y a de quoi, puis c'est à moi de ne pas tolérer un arme à feu ou à tolérer des stupéfiants ou tolérer des armes dans ma cour. » Puis ça, j'aimerais ça que ça recommence. Et en ce moment, je pense que la barrière est en train de sauter un petit peu, du moins dans des communautés plus petites, ici comme on est en Québec. Parce qu'on est capable de retourner parler à nos gens, puis on arrête de rester chacun encloisonné dans notre tour d'ivoire. S'il y a le courage, M. Fortin, qui vienne donc voir les policiers à la Ville de Québec, et qui aille donc faire un chiffre de patrouille avec eux, qui s'assoit à sa banquette arrière avec un sergent ou un lieutenant, qui vienne faire un chiffre d'observation. Puis je vous le dis, là, d'après moi, il n'y a qu'un chiffre. Ça sera peut-être compliqué. Au début, les policiers sont peut-être pas contents de l'avoir parce qu'ils sentent qu'ils parlent pas toujours très positivement du travail des policiers de Québec, mais qu'ils viennent donc s'asseoir avec eux. D'après moi, ça changerait la donne pas mal. Ils se rendraient compte assez vite que l'agresseur n'est peut-être pas dans la cour de celui qui le pense.
Roger Ferland, ex-détective à la Ville de Québec, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup pour tes éclaircissements ce matin.
Bonne journée à vous, les boys.
Bye-bye, bonne journée.
Salut, Roger.
T'sais, on sait tous c'est quoi un billet? Un billet sur quelque chose.
Puis on en a tous sur un sujet ou un autre. Exact.
Revenons au secondaire, OK? On avait tous des chums là, qui étaient gros. On avait tous des chums qui étaient roux. On avait tous des chums qui étaient issus des communautés LGBTQ+2XYZ.
Des fois, des gros roux des communautés LGBTQ+2XYZ.
Des fois, ben, quand ces gens-là se faisaient écœurer, ils avaient l'impression qu'ils se faisaient écœurer parce qu'ils étaient gros. Ils avaient l'impression qu'ils se faisaient écœurer parce qu'ils étaient roux. Ils avaient l'impression qu'ils se faisaient écœurer à cause de ci ou à cause de ça. Quand t'es noir à Québec, puis tu te fais intercepter par un policier, t'as peut-être l'impression que tu te fais intercepter parce que t'es noir. Mais si t'as pas mis ton flasheur à droite pour virer à droite, ou si t'es passé sur la lumière rouge alors que tu pouvais pas le faire, ben le policier est en droit de t'intercepter puis de vérifier qui y a dans le véhicule, puis t'as demandé tes papiers, ton permis de conduire. Mais toi, le billet que t'as, c'est « ma communauté a toujours été oppressée ». Fait que le policier est automatiquement soit un xénophobe ou encore pire, un raciste. Puis il va donner un témoignage au politologue en disant « ben oui, moi je me suis fait souvent arrêter à la Ville de Québec parce que je suis noir, tu sais ». Tu comprends le billet?
Ouais,
ça doit être dur de lutter contre ce billet-là quand toi, t'as l'impression qu'on t'arrête parce que t'es noir, mais si tu mets pas des clignotants, si tu fais pas ton stop, si tu passes à rouge, on va t'arrêter pareil, que tu sois bleu, blanc, rouge, vert.
Ouais, je me garde le droit de réserve d'entendre M. Fortin tout à l'heure. Je me fais une tête après ça.
On va-tu y reposer la question?
Ben oui.
À Roger? On va-tu pouvoir sortir la question de Roger, Max?
On peut faire ça avec plaisir.
Ça me ferait plaisir, parce que la question est quand même assez longue, mais très pertinente. Exact. 418-971-1021 pour communiquer avec nous s'il y a quoi que ce soit. Merci de nous en informer, surtout si ça se passe sur la route. Vous êtes nos yeux, nos oreilles, c'est par texto.
20 Ouest, ça ralentit à partir de Chemin des Îles jusqu'au pont. 113 et 20 vers les ponts, là, pas facile non plus. Pont de Québec également, direction nord. C'est au rouge, et sur Capitale, ça commence à ralentir pas mal. Entre Seigneurial et Laurentienne.
Boulevard 102.1. Marceau